Bonsoir et bienvenue à tous dans cette tribune de la presse. Pendant trois quarts d'heure, nous allons débattre autour de l'actualité de la semaine avec au sommaire l'Assemblée nationale qui a rejeté le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale des élections municipales et locales. Un rejet qui intervient pratiquement à la clôture de la session parlementaire de mars. Et puis de l'autre côté, les consultations présidentielles ont été élargies aux provinces. Et cette semaine, les gouverneurs des provinces ont lancé les consultations provinciales sur recommandation du président Joseph Kabila. Consultation qui doit prendre fin en principe ce vendredi. Pour en parler, pour débattre autour de ces sujets, nous avons dans ce studio Joël Kadé-Danga, éditeur responsable du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Joël Kadé, bonsoir.
Bonsoir, cher Franklin. Bonsoir aux auditeurs.
John Omombo, journaliste indépendant. John, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Clément, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir et bienvenue à tous encore une fois dans cette émission. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
La presse kinoise de cette semaine a, dans ses colonnes, fait état notamment du renvoi par l'Assemblée nationale de la loi portant répartition des sièges pour les élections urbaines et locales, et aussi du début des consultations en province. Le Phare, par exemple, écrit, je cite, « Loi sur la répartition des sièges récalée. Bochab appelé à revoir sa copie. Sacré impasse, constate la prospérité. Une session extraordinaire est plus qu'envisagée pour débattre sur la question de l'adoption du projet de loi portant répartition de sièges pour les élections locales, écrit l'Avenir dans sa une. Kabila annonce la convocation de la session extraordinaire du Parlement. Le processus électoral lui-même tangue toujours aussi. Le député Martin Fayoulou réclame toujours un enrôlement actualisé des électeurs, rapporte le Phare. Les mots est lâché, la présidentielle et les législatives de 2016 en RDC pourraient ne plus se tenir en novembre 2016, comme prévu dans les calendriers de la CENI. C'est le Phare qui fait cette alerte ce mardi. En effet, dans son article intitulé « RDC, pas de vote le 25 octobre 2015 », ce quotidien de Kinshasa s'explique et égrène froidement et de manière détaillée ses arguments qui se résument au non-examen de la loi sur la répartition des sièges pour le local, à la non-tenue de certaines opérations capitales du calendrier électoral en cours, à la non-réception des candidatures pour les conseillers urbains et des chefferies, mais aussi quelques autres retards observés par le calendrier électoral. Conséquence, selon le Phare, sauf miracle, toutes les élections prévues en 2015, à savoir les provinciales, l'élection des conseillers, les sénateurs, les gouverneurs, maires et maires adjoints ne peuvent plus avoir lieu, même si on vote la loi sur la répartition des sièges. Sous un autre chapitre, Forum des As constate que les consultations tenues en province par les gouverneurs sont boudées en bougie-maille. C'est sans doute à cause de toute cette confusion que la prospérité estime qu'il faut vite aller au dialogue. Dans son article intitulé « Gagner le temps », le journal de la capitale estime qu'à son avis, le président de la République doit avoir écouté tout le monde et qu'à ce stade, l'heure est arrivée d'aller vite et même très vite au dialogue. La prospérité titre, dialogue Kabila se dévoile devant les journalistes et rapporte le quotidien. Joseph Kabila a exprimé son souci de préserver les intérêts de la RDC, de sauvegarder sa souveraineté ainsi que la dignité de son peuple. Le quotidien a indiqué que le chef de l'État s'est entretenu avec les patrons de presse de plusieurs sujets d'intérêt national, notamment sur la sécurisation des élections, l'enrôlement des nouveaux majeurs et l'accompagnement ou non de la communauté internationale au processus électoral en cours. La presse a également demandé à Joseph Kabila, rapporte le quotidien, d'ordonner la relaxe des journalistes arrêtés et la réouverture de quelques médias fermés dont RLTV, CKTV et autres.
Et la semaine qui s'achève a été marquée aussi par l'expulsion de nos compatriotes congolais d'Angola. Plus de 14 000 en deux semaines. Alors Joël Kadé-Danga, un petit commentaire rapidement à cette nouvelle vague d'expulsion des Congolais d'Angola.
Tout en saluant dans ces studios une intelligence de ce pays, John Omombo, que j'aime rencontrer dans le débat, nous regrettons que le gouvernement de la RDC soit jusqu'à ces points irresponsables et que le Congolais soit devenu une risée dans le monde entier où des étudiants congolais peuvent être tués en Inde, ils peuvent être tués en Tunisie, jetés à partir du quatrième niveau de l'étage et qu'il n'y ait aucune explication à la population congolaise, que le Congolais soit devenu une risée du monde entier, qu'on les chasse de l'Angola, qu'on les chasse du Congo-Brazzaville, sans qu'au niveau national on prenne soin d'eux. Je me dis où est-ce qu'on est, c'est là que j'en appelle vraiment
à un autre Premier ministre, parce que l'actuel que nous avons ne s'occupe que de la troïka économique. J'ai rejoint les gouverneurs du Nord Kivu qui avaient demandé. En tout cas, il faut un autre Premier ministre. Donc, qui est de Premier ministre? Celui qui est chargé de l'économie. Et l'autre qui va s'occuper un peu de la sécurité des personnes et de leurs biens, parce que Matata semble ailleurs.
Alors, John Omombo, à votre avis, est-ce que Kinshasa ne devrait pas réagir finalement?
Je voudrais également louer la présence de mon confrère, dont j'aime vraiment des réflexions.
On vous salue encore,
Joël
finalement.
Cadet. Au-delà de ce qu'il a dit, je crois qu'en tant qu'humain, nous ne pouvons que déplorer les conditions dans lesquelles ces compatriotes congolais sont expulsés. Mais je pense aussi, en tant que journaliste, que nous avons également la responsabilité de rappeler que la question de migration, c'est une question qui relève de la souveraineté d'un État, parce qu'il existe une législation nationale pour chaque État qui réglemente des questions migratoires. Ça veut dire, lorsqu'on parle même des sans-papiers en Europe et tout ça, il y a un problème de souveraineté d'un État, et donc ça doit répondre de cette législation. Et donc je voudrais qu'on comprenne que lorsqu'on va dans un État étranger, il y a des conditions auxquelles on doit répondre, et ça c'est vraiment important. Et la question des migrations aussi relève de la sécurité d'un État. Et donc c'est très important que l'on comprenne, de la même façon que nous devons remplir des papiers, remplir des conditions pour aller en Europe un peu partout, nous devons comprendre aussi que pour aller dans les pays africains, il y a également cette obligation-là et personne, et alors personne, ne peut interférer sur les affaires internes d'un État.
Merci. Alors Clément Mangoubou, quelle devrait être finalement l'attitude du gouvernement de Kinshasa face à cette situation?
Je pense que nos compatriotes qui sortent du Congo ont droit à la protection et à l'encadrement du gouvernement congolais. Nous avons tout un ministère qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Mais c'est quand même surprenant que toutes les fois qu'on chasse les Congolais du Congo au Brazzaville, de l'Angola ou d'ailleurs, et ils viennent être surpris avec nous au même moment. Est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ont une politique, est-ce que le gouvernement a une politique pour suivre les Congolais qui sont à l'étranger? Est-ce que le gouvernement collabore avec d'autres gouvernements par rapport à cette question des migrations? Nous, nous disons que là, il y a un problème. Mais de l'autre côté, il faudra aussi que nos compatriotes comprennent, comme a dit les confrères, que lorsqu'on sera dans un pays étranger, il ne faut pas chercher à le faire clandestinement. Chercher à y entrer avec
tous les documents possibles.
Oui, tous les documents possibles. Et il ne faut pas mettre les pays devant un problème parce qu'on y est parti 10 000, 20 000 et vous devez revenir. Et maintenant, les pays doivent porter ces fardeaux sur les dos.
Clément, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Kisangani, en dehors justement des consultations dont nous allons parler tout à l'heure?
Oui, la grande actualité à Kisangani, c'est cette opération de consultation de la base recommandée par le président de la République au gouverneur des provinces, mais qui se passe, qui se déroule dans un climat de tension, d'une tension et d'animosité entre le gouverneur des provinces et l'Assemblée provinciale, à cause d'une motion de défiance suspendue sur la tête des gens Saïdi Bamanissa.
Nous allons y revenir dans les débats de tout à l'heure, mais l'autre actualité de cette semaine nous ramène dans le domaine des médias. La République démocratique du Congo a basculé depuis mardi à la TNT, la télévision numérique terrestre, et pour le ministre de la Communication et des Médias, le basculement de ce jour vers le numérique concerne d'abord la ville de Kinshasa et se poursuivra progressivement sur toute l'étendue du pays. Alors John Omombo, quelle lecture vous faites de ce basculement?
Je pense que c'est une étape importante pour la République démocratique du Congo que de basculer dans la télévision numérique terrestre. Et comme le ministre l'a dit, si nous partons de Kinshasa et puis progressivement, je crois aussi que c'est une procédure qui me semble sage, étant donné qu'un voyage d'un million de kilomètres commence toujours par un pas. Donc on commence par le premier pas et c'est très très important. Mais je crois qu'on aura le temps de revenir sur justement le débat, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur la télévision numérique.
Bien sûr.
Je suis très inquiet lorsque des professionnels des médias que nous sommes avons pris la responsabilité de désorienter le public par rapport à ces projets avantageux que la télévision numérique terrestre. Je pense que cela est vraiment désagréable et j'ai du mal à digérer ce genre de processus.
D'accord. Alors, on va y revenir dans nos prochaines éditions lorsqu'on parlera de la TNT. Alors, Joël, Joël Kadidanga. Joël Kadidanga, vous, comment vous avez accueilli cette information, cette nouvelle?
Tout en soutenant le ministre Lambert Mende au Malanga, je crois qu'il y a lieu, comme on a passé, que l'on ne laisse pas les secteurs de l'information et de la communication aux multinationales. Vous savez, aujourd'hui, les multinationales se servent du peuple congolais comme ils veulent, avec Vodacom, RTL et consorts. Ils se servent vraiment de la population. L'information, c'est le domaine le plus sécurité qui puisse exister. Je souhaite qu'au-delà de laisser cela au privé, aux multinationales, notamment ceux qui sont déjà sur terrain, pour ne pas faire leur publicité, je souhaite que le gouvernement congolais puisse instaurer son propre bouquet national qui sera vendu, n'est-ce pas, à la population congolaise, de manière à gérer lui-même l'information.
Merci beaucoup. Alors, Clément Mangoubou, est-ce que les médias de Kisangani, là où vous êtes, sont préparés à cette nouvelle technologie?
Oui, effectivement, les médias sont préparés parce que nous devons marcher avec notre siècle. Les gens sont préparés, les médias sont préparés, mais seulement du côté de la population, il y a cette écoute du décodeur dont on parle ici. Les gens estiment que c'est quand même assez élevé comme prix, mais ils n'ont pas de choix, ils devront se plier.
Merci beaucoup. Alors c'est sur cette note que nous allons rentrer dans notre premier thème de la soirée qui concerne le rejet du projet de loi portant répartition des sièges. Et le gouvernement est appelé à retravailler le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections locales et municipales. L'Assemblée nationale a renvoyé ce texte la semaine dernière après la défense de ce projet de loi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Les députés nationaux ont reproché à cette loi plusieurs incohérences dans les chiffres. Des incohérences qui fausse, selon eux, la répartition des sièges dans les circonscriptions. Compte rendu signé Mimi Ngumba Mulongo.
La plupart des députés nationaux ont crié à la fraude dans la répartition de sièges. Selon eux, plusieurs groupements et secteurs prévus dans le projet du gouvernement sont inexistants ou ont taché des contentieux majeurs, faisant allusion au recensement électoral de 2004 et l'actualisation faite en 2011. Les députés ont déploré le manque de cohérence entre les chiffres contenus dans la loi et la réalité sur terrain. Pour illustrer ces déséquilibres, les élus ont évoqué le cas du territoire d'Oshué dans la province du Bandundu, qui compte plus de 500 000 habitants, mais qui n'a eu que 57 000 enrôlés suite à l'éloignement des centres d'enrôlement. Toujours selon ces députés, dans certaines chefferies de petite taille, les chiffres sont apparus gonflés par rapport à d'autres. Délice Sanga.
Comment vous pouvez comprendre que vous ayez des secteurs où vous n'avez pas de groupement, des groupements où vous n'avez pas de village, et par-dessus tout, il y avait dans cette loi des groupements où il y avait zéro électeur et où on avait attribué un siège. Il aurait pu nous dire comment est-ce que là où il n'y a pas d'électeur, on attribue tout de même un siège. Ceci pour dire que notre position à l'origine, lorsque nous avions retiré la loi électorale, nos préoccupations demeurent, nous avions dit que le gouvernement ne serait pas prêt.
Ce tableau trouble foncièrement, selon eux, la cartographie administrative et hypothèque tout examen approfondi du texte. Et donc, accepter de traiter cette loi serait consacrer le faux et polluer l'environnement électoral, surtout à l'intérieur du pays, ont-ils ajouté.
Notons que cette loi sur la répartition des sièges est un préalable pour que la CENI organise les élections municipales et locales prévues en octobre prochain. Et justement, de son côté, la CENI affirme qu'elle n'aura pas à organiser les élections municipales et locales si l'Assemblée nationale n'adopte pas la loi en question. C'est le rapporteur de cette structure qui a fixé l'opinion à ce sujet. Jean-Pierre Kalamba le dit au micro d'Askenzik Biatayoro.
La CENI avait conditionné le lancement de l'inscription des candidats aux élections municipales et locales à l'adoption et la promulgation de la loi. Si c'est une question remise, la CENI attend, il n'y a pas de problème.
Attendre, ça veut dire quoi, concrètement?
La CENI a besoin d'une loi comme soubassement pour l'inscription des candidats aux élections municipales et locales. La loi n'étant pas là, attendre, c'est-à-dire, on reste jusqu'au moment où la loi sera disponible qu'on fasse cette opération-là.
Mais entre-temps, la session se clôture, c'est lundi 15 juin.
Il n'y a pas de problème. Comme moi, tout le monde a suivi que le président de l'Assemblée préconisait qu'une session extraordinaire qui peut avoir 30 jours ou 15 jours, parce que c'est une session qui se clôture dès lors que les matières prévues à l'ordre du jour sont épuisées. C'est une affaire de 30 jours tout au plus. La CENI attend. Il n'y a pas mort d'homme pour ça.
Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que c'est la Tribune de la Presse qui reçoit ce soir Joël Kadidanga, éditeur responsable du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa, John Omombo, journaliste indépendant, et Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani. Joël Kadidanga, comment vous analysez ce rejet de l'Assemblée nationale ?
Bon, très cher confrère, il faudrait comprendre que lorsque dans sa vie on est habitué à tricher depuis l'école primaire, secondaire et jusqu'à l'université, on va continuer qu'à tricher même dans sa vie professionnelle. C'est ce que nous constatons dans le chef de la classe politique actuelle. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, tout le monde travaille sans le dire au report des élections législatives nationales et présidentielles. Mais c'est que les autres appellent glissement, parce que je ne peux pas emprunter les propos, les mots de politiciens. Je suis journaliste, je suis un analyste. C'est pour vous dire que la classe politique, aujourd'hui au pouvoir, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, travaille pour les reports des élections nationales législatives et les élections présidentielles.
Bref, pour le report de toutes les élections.
Non, les autres, là, ça ne les concerne pas. Le problème, c'est que les députés nationaux, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, veulent bénéficier également de ces bonus qui a été accordé au Sénat et au gouvernement provinciaux et aux assemblées provinciales. Donc, ils bénéficient ne fût-ce que d'une année, de deux ans, et c'est dans cette contexte qu'ils travaillent tous.
D'accord.
Alors, opposition comme majorité. Non, je voudrais...
Oui, mais je veux juste avoir la réaction. D'abord la réaction de...
Non, tout simplement pour vous dire, c'est dans ce cadre-là que vous voyez, ils ont rejeté ces projets, mais pour qu'on revienne, parce qu'aujourd'hui, la CENI, vous l'avez entendu,
parce que le problème, c'est qu'on a évoqué le problème des incohérences dans les chiffres.
Oui, Kalambala dit, la CENI ne sera pas évoluée. Aujourd'hui, vous avez entendu, on a relevé le problème des 700 doublons.
C'est le travail de la CENI.
Donc, au niveau de la CENI. Et en principe, la CENI devait publier, je crois, la liste des candidats au 15 juin. Aujourd'hui, on est déjà au 19. Donc, on ne saura pas. Ça veut dire que tout le monde est en train de travailler, mais malheureusement, personne, même en ce qui concerne les consultations dont le sujet est retenu à l'heure du jour de cette émission, donc personne ne veut qu'on aille aux élections parce qu'en dehors du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tous les députés ne veulent pas qu'on aille aux élections parce que personne n'est préparé pour ça, personne n'est prêt pour ça qu'il s'agit de l'opposition, de la majorité.
Voilà, alors John Omombo, quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire Joël Kadé?
Je voudrais saluer cette prophétie qui vient de nous être révélée par Joël Kadé. Je rappelle quand même qu'au-delà de ses responsabilités en tant que journaliste, Joël Kadé est aussi pasteur. Et je pense que c'est un discours qui passerait tout à fait lorsqu'on est devant les fidèles à l'église, parce que en tant que journaliste, lui n'a fait que interpréter les intentions de tous les députés. Je ne vois pas un député qui a fait une déclaration officielle pour dire que moi je ne veux pas des élections. Il dit tout le monde, travaille pour le report de tous les scrutins. Mais alors là encore, c'est une autre révélation. Je crois que c'est des discours qui sont un peu difficiles à digérer dans les médias. Des discours du genre, écoutez, le président Kabila veut le glissement, il va se représenter encore. Il ne dit pas. Qu'il ne sera pas
candidat. Il s'adresse pas à la population.
Je ne sais pas dans quel état au monde un président dont la question est déjà réglée par la Constitution, on estime qu'il doit faire une déclaration. Je ne vois pas Barack Obama faire une telle déclaration. Je ne vois pas non plus d'autres présidents qui occupent justement leur dernier mandat le faire. Je pense que la décision de rejet de la loi sur la répartition des sièges telle que rejetée par le Parlement est une option très sage qui a été prise par le Parlement congolais. Pourquoi ? Parce que les questions qui ont été soulevées, ce sont des questions qui sont fondamentalement importantes pour la nation. Par exemple, on parle de cette jeunesse qui a atteint 18 ans depuis 2011 jusqu'à ce jour.
Qui sera privée d'ailleurs de voter.
Et donc c'est un droit constitutionnel. Il faut qu'il y ait une réponse concrète par rapport à cette préoccupation. Il y a beaucoup d'autres questions liées au processus électoral, des questions qui ne relèvent pas de la capacité de la commission électorale. Parce que la commission électorale, je dois le rappeler, au terme de l'article 211 de la Constitution, la commission électorale a reçu la mission d'assurer la régularité de tout processus électoral et référendaire. Et l'alinéa 2 indique qu'il y a une loi organique qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Ça veut dire que la CENI n'agit pas sur base de sa volonté.
Mais en même temps, John, le projet arrive quand même en retard. retard. Pourquoi il n'est pas arrivé à temps, selon vous, pour que quand le parlementaire vont rejeter, que le gouvernement ait le temps de travailler sur ça? Est-ce que vous ne rejoignez pas finalement Joël Cadet qui pense que on travaillerait pour le glissement?
Je ne voudrais pas entrer dans le procès d'intention. Je l'ai dit, je ne suis pas un prophète. Lui, au moins, il a cet avantage-là, c'est un homme de Dieu, au-delà du fait qu'il soit journaliste. Mais je voudrais tout simplement vous dire une chose. Il a paraphrasé le rapporteur de la CENI, Kalamba, qui a dit que la CENI ne saura pas faire un quelconque travail, sans que cette loi... Mais je pense que ce n'est pas la volonté du rapporteur. Il ne faut pas qu'on fasse ça comme si c'était la volonté. C'est la loi qui le veut ainsi. La CENI ne peut pas agir sur base de sa volonté. La CENI n'agit que sur base des instruments juridiques qui lui sont donnés par le législateur, par
l'autorité... Mais vous ne répondez pas à ma question.
...qui est l'Assemblée nationale. Et donc, sans cette loi... On ne peut pas évoluer. Voilà encore un problème.
Et vous ne répondez pas à ma question, parce que ma question, c'est dans le retard, finalement. Parce que l'Assemblée nationale amène une loi, plutôt le gouvernement amène une loi au niveau de l'Assemblée nationale, pratiquement en retard, lorsque la session est en train d'être clôturée.
Je ne voudrais pas parler ici de l'imprudence, peut-être du ministère de l'Intérieur. Je ne voudrais pas affirmer que ce serait une imprudence. Mais je voudrais seulement vous rappeler que nous avons connu une telle situation, un retard comme ça en 2011, au moment où le président Daniel Ngoï-Moulonda, à l'époque, avait même proposé à un certain moment, voyant qu'il y avait une lenteur dans la procédure, il a même proposé qu'on puisse découpler les élections présidentielles de législatives. À un certain moment, ça a provoqué un tollé au sein de l'opinion. Je pense que c'était une manière de faire pression. Je pense que cela ne freine en rien, parce que la CENI, au moment où nous parlons ici, la CENI continue à faire son travail parallèlement à ce qui se fait à l'Assemblée nationale.
D'accord.
Ce qui se fait à l'Assemblée nationale n'est fait que venir compléter le processus. Mais quant à la tenue effective du scrutin, cela est conditionné justement par la loi sur la répartition des sièges.
Clément, comment vous analysez finalement le rejet de cette loi qui freine finalement la CENI dans l'organisation des élections municipales et locales?
Bon, dans un parlement, on peut recevoir une loi, tout comme on peut la rejeter. C'est un exercice normal. Mais je pense que ce n'est pas le retard qui expliquerait cela. Il y a d'autres intentions qui seraient derrière la tête des députés, comme a dit les confrères. Parce que
Joël
pour une loi aussi vitale, aussi importante pour la nation, on ne peut pas réagir de cette façon-là. On accepte, on discute. Il y a lieu de vérifier un certain nombre de choses et corriger un certain nombre de choses et de fixer correctement les choses. Et je pense que ça a été la vision du chef de l'État qui recommande une session extraordinaire. Ils auront tout le temps pour le faire, mais chercher à incriminer le gouvernement ou pour dire que c'est venu en retard. Moi, je pense que les députés n'ont pas raison. Ils doivent travailler pour nous. Ils sont là-bas pour nous. Qu'ils travaillent. Et leur travail, c'est justement de voter les lois. Donc, ils ont ces devoirs-là, ils doivent se livrer à cet exercice, même si c'est pendant la session extraordinaire.
Mais Clément, certains observateurs estiment que les députés ont rejeté ce projet de loi juste pour défendre l'intérêt de la nation. En fait, c'est racheté en défendant l'intérêt de la nation. Qu'en pensez-vous?
Les intérêts de la nation sont... dans toutes les activités, il n'y a pas que dans la loi pour les circonscriptions, les sièges dans les circonscriptions électorales. Moi, je crois que en défendant l'intérêt de la nation, il devrait recevoir la loi, l'examiner et corriger ce qu'il faut corriger. Mais comment défendre l'intérêt de la nation en rejetant une loi qu'on n'a pas encore examinée, dont on n'a pas encore tous les contours? Non, je crois que là, ce n'est pas correct.
Et donc vous êtes d'accord avec Joël Cadet qui affirme pratiquement que le chemin est presque balisé pour le glissement?
Bon, glissement, peut-être pas. Parce qu'il y a une organisation, il y a un calendrier électoral, et aujourd'hui, l'objet des consultations, c'est ça, justement. Il faudra qu'on organise bien les élections, qu'on aille dans des élections apaisées et qu'on trouve les moyens. Moi, je crois que là, ce n'est pas encore les glissements. On veut plutôt baliser le chemin pour un Congo calme, un Congo pacifié, pacifique, parce que il faut éviter qu'il y ait des troubles avec les élections. Moi, je crois que les glissements, ça, ce sont les gens qui pensent, qui anticipent si c'est un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas d'éléments probants pour nous dire qu'il y a glissement, qu'il y aura glissement, ou que les députés veulent rester éternellement là-bas, ou le président de la République veut rester éternellement là-bas. Parce qu'une loi, c'est une loi. Il faut que les gens respectent la loi.
D'accord. Alors, on va finir par cette question sur laquelle on va essayer de débattre. Il y a certains analystes qui ont estimé que le gouvernement a fait exprès pour montrer qu'il n'y aura pas élection locale et municipale, vu que cela coûte vraiment cher et le gouvernement n'a pas même de moyens. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Kadé?
Non, je voudrais d'abord dire une seule chose à mon ami John Omombo, une intelligence que j'ai toujours appréciée dans ce pays, mais heureusement qu'il connaît ma vie privée. Malheureusement, il est en train de la balancer sur la place publique pour dire que je suis prophète. Écoutez, je ne fais pas de la prophétie, je suis futurologue, je suis internationaliste de formation, et mes analyses sont fondées sur le fait. Lorsque vous analysez ce fait, vous pouvez en déduire les conséquences, et les conséquences sont les suivantes. Le gouvernement dépose la loi sur la répartition de sièges en retard, l'Assemblée nationale rejette cette loi, donc on renvoie la balle encore au gouvernement qui doit revoir ses calculs, et ça sera du temps perdu.
Et donc la CENI est pénalisée.
Donc lorsque la CENI avait publié son calendrier électoral, les gens avaient relevé parce que la CENI n'a pas tout simplement publié le calendrier global qui était réclamé par la communauté internationale, la société civile et la classe politique de l'opposition, mais aussi et surtout, elle avait associé à cela les contraintes qui ne pourront pas lui permettre, elle, d'organiser les élections tant qu'elle n'aura pas atteint ces contraintes. Ces contraintes étaient liées notamment au cadre législatif qui devrait régir le processus électoral et au cadre financier sur l'appui financier pour l'organisation de ces élections. Mais aujourd'hui, avoir la manière dont le gouvernement qui détient la majorité de travail avec, bien sûr, quelques débauchés de l'opposition qui ont été pris dans ce gouvernement et l'Assemblée nationale dont la majorité est constituée de la majorité présidentielle. Donc, vous sentez que tout le monde travaille au report des élections. Et là, ça n'appelle pas à un prophète Élie pour dire que ça va être comme ceci. John Omombo, c'est un expert scientifique
rapidement
qui a fini à l'IFACIC dans la politique interne et externe de notre pays. C'est quelqu'un de très spécialisé. Il sait que les faits, nous pouvons les analyser et en déduire les conséquences qui peuvent devenir.
D'accord.
Et à ce titre-là,
bon,
je crois qu'il est d'accord avec moi, sans qu'il veuille le dire, que la classe politique actuelle dans l'opposition, comme celle de la majorité, n'est pas prête pour les élections. C'est voilà pourquoi on réfléchit, on
peut être subterfuge
pour aller plus loin.
Voilà. Je voudrais une précision, Joël Kadé. J'ai suivi les interventions même de notre...
Et vous répondez même à la question aussi, voilà, allez-y.
J'ai suivi l'intervention même de notre confrère,
Clément,
Clément à partir de Kisangani, Clément qui m'écoute. Joël, je crois qu'il est important d'apporter une précision. La précision, c'est que, à mon avis, je ne trouve pas qu'il y a de retard parce que le processus, il est en cours. Je voudrais rappeler ici que lorsque les députés ont rejeté ça, ce n'est pas parce que le gouvernement a déposé ça en retard.
Mais il y a des conditions
qu'ils ont posées. Notamment cette liste actualisée des électeurs, le fichier actualisé. C'est ça la condition. Je me souviens qu'en 2011, lorsque moi j'étais encore à la CENI, nous avons connu un tel problème. Mais avec des listes électeurs, c'est là qu'on peut savoir que Kinshasa, par exemple, en 2006, avait plus de 58 sièges et que en 2011, avec la répartition des sièges, partant justement de la liste sur la liste des électeurs, on a compris que Kinshasa perdait pratiquement 7 sièges. Donc c'est très important, c'est une opération, une étape importante dans l'organisation des scrutins. C'est là, très important. Je n'ai nullement l'intention de balancer sur la vie publique, sur la place publique, la vie privée de mon confrère et un ami d'ailleurs, nous nous connaissons très bien. Je voudrais seulement lui rappeler que lorsqu'on est pasteur, c'est des charges communautaires qui sont connues, ça n'a rien à voir avec la vie publique. Je retire ce que j'ai dit, si sans vexer, mais tout simplement, je voudrais rappeler qu'il a cet avantage-là, justement, de comprendre les intentions des gens, ce qui est tout à fait normal.
Ce qui veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec avec certains analystes politiques qui estiment que le gouvernement fait exprès...
Non, je ne pense pas que ça soit une manière de baliser le chemin au glissement. Vous savez, le problème chez nous, c'est que nous, dans notre pays, nous sommes mal habitués, surtout les leaders communautaires sont mal habitués à chaque fois induire la population en erreur. On utilise le pessimisme comme une vertu, le pessimisme, le négativisme comme étant une arme efficace pour conduire les affaires publiques.
D'accord.
Ce qui n'est pas bon.
Okay.
Il faut parler des choses telles qu'elles se déroulent maintenant, et ça fait partie de la loi, de la procédure. Si on dérape, je pense qu'il y a des organes, des institutions qui sont habilitées à traiter de cette question.
D'accord. Alors, Clément Mangoubou, quelle est votre analyse ou votre lecture sur cette étape des faits?
Bon, moi, je crois que les élections auront lieu. Il y a une machine qui a été montée, qui a été organisée pour lancer les élections, pour encadrer les élections. Et s'il y a des petits couacs, je crois qu'il y a lieu, il y aura moyen d'arranger... ces couacs-là. Et il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous puissions donner l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir absolument, alors qu'il y a une machine qui veut que l'alternance vienne, qui veut que les organisations s'organisent, les élections s'organisent, qui veut que les Congolais vivent un nouveau leadership. Donc, je pense que nous devons être un peu modérés et faire voir à la population que les choses vont aller pour les mieux.
Merci.
Il peut y avoir des petites difficultés, mais on va les surmonter.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est ce qui nous ramène finalement à notre deuxième thème de la soirée qui parle des consultations provinciales. Et on commence par la province orientale où le gouverneur Jean Bamanisa a clôturé hier jeudi, qui s'en gagne bien sûr, la série des consultations des différentes couches de la population et des forces vives en prévision du prochain dialogue national initié par le chef de l'État Joseph Kabila. 25 groupes ont été reçus tour à tour pendant 3 jours et tous se sont dit favorables pour la tenue de ce dialogue national. Et dans ces consultations à la base, les grandes propositions ont été formulées sur les élections, le découpage territorial et la sécurité. La synthèse de ces consultations nous est proposée ici par Aliana Ali Panagama.
Au chapitre des élections, les invités aux consultations ont formulé le vœu de limiter la durée du dialogue national à 15 jours et le nombre des participants ne dépassa pas 250 personnes. D'autres ont insisté sur la révision du fichier électoral avec l'enrôlement des jeunes devenus majeurs après 2006 ainsi que l'identification des non-enrôlés. Les associations des femmes ont en particulier insisté sur l'alternance au pouvoir et le respect du principe de la parité sans condition. Sur le découpage territorial, tout le monde est d'accord par respect à la Constitution. Néanmoins, ce découpage doit se faire progressivement. La FEC a souhaité que cela commence par la province orientale et celle de l'Équateur. Elle propose en outre la création des villes-provinces autonomes à l'instar de la ville-province de Kinshasa. Les villes de Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka sont ciblées. Parlant de la situation sécuritaire, les participants aux consultations ont demandé au président de la République de neutraliser le plus vite possible toutes les forces négatives encore actives en province orientale. Aliana Ali Panagama, Kisangani, Radio Kapi.
Et à Kananga, au Kasai Occidental, l'association des professeurs d'université estime que le consensus est la seule voie indiquée pour mettre fin à la méfiance entre les acteurs politiques. Ils l'ont dit mercredi à l'issue de l'audience leur accordée par le gouverneur de province dans le cadre des consultations provinciales. Le gouverneur a rencontré d'autres corporations professionnelles. André Kambala nous en dit plus.
Pour l'ordre de médecin, que les élections locales viennent après la présidentielle, Docteur Mwamba.
Concernant les élections, nous avons demandé au gouverneur de transmettre à son excellence, Monsieur le Président, nos souhaits que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. On peut peut-être reporter les élections locales. Et concernant l'enrôlement des mineurs qui sont devenus majeurs, nous avons souhaité que ça ait lieu le plus rapidement possible parce qu'ils ont aussi le droit de voter.
Quant aux avocats, le découpage ne doit pas égaler à la décentralisation judiciaire, bâtonnier Dominique Kambala.
En ce qui concerne le découpage territorial, les avocats ont conseillé les gouvernants d'éviter la précipitation dans la mise en œuvre de ce processus. En plus, les avocats ont demandé à ce que les gouvernants ne puissent pas faire coïncider le découpage territorial avec la décentralisation judiciaire. Parce que la décentralisation judiciaire exige des moyens. On ne peut pas d'un coup créer les cours d'appel et les barreaux. Donc cela doit nécessiter du temps.
Pour ce jeudi, le programme prévoit la poursuite de ces consultations à Tikapa. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Merci beaucoup André Kambala et Aliana Ali Panagama. Alors Clément Mangoubou, vous étiez en train de nous dire en début de l'émission que les consultations provinciales à Kisangani étaient à se clôturer sous une forte tension. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oui, les consultations se sont déroulées sous une forte animosité entre les gouverneurs des provinces et l'Assemblée provinciale, qui lui reproche un certain nombre de choses. Ce qui a fait d'ailleurs que dans les consultations, les invitations ont été sélectives. Il y a des associations, des grandes associations qui n'ont pas été appelées par les gouverneurs et consultées. Il y a des corps de notables qui n'ont pas été appelés et consultés. Il y a bien d'autres choses. Alors, c'est à cause de cela que on a senti une certaine morosité, parce que pour l'Assemblée provinciale, il faut absolument que la motion de défiance passe.
Mmh. Ok. Et aujourd'hui, vendredi, comment est-ce que les choses se sont passées? Est-ce que les consultations sont toujours à couteau tiré?
Bon, il n'y a pas de couteau tiré, mais les gens estiment qu'il a fait un travail, lui, demandé par les chefs de l'État, par les présidents de la République, et que maintenant, il faut que l'Assemblée s'occupe de son cas, parce qu'on lui reproche des graves choses, et il faut qu'il en réponde.
Ok, merci beaucoup. Alors, John Omombo, le reportage que nous a proposé Aliana Ali Panagama Kisangani et ce que nous a proposé André Kambala à Kananga, est-ce que les résolutions des consultations provinciales sont différentes des résolutions qui ont été rapportées aux journalistes hier par le président de la République?
Je voudrais ici saluer la sagesse de l'institution président de la République qui voudrait justement rassurer l'opinion que le pouvoir qu'il a reçu en 2011, c'est un pouvoir qui vient du peuple et donc il reste toujours déjà à l'écoute de sa population. Et donc à travers tous ces leaders communautaires, à travers toutes ces organisations qu'il reçoit, même au niveau des démembrements, c'est toujours le président Kabila qui le reçoit au nom du principe de la délégation de pouvoir. Il a délégué justement cette responsabilité aux provinces.
Mais est-ce que ça vaille la peine, ces consultations?
Et même aujourd'hui, je crois, il a reçu même des délégations des étudiants de la RDC. Les coordonnateurs, ce qui est vraiment une bonne chose. Je pense que lorsque vous suivez tous les avis des personnes qui ont été reçues par les institutions de la République dans le cadre de ces consultations, vous comprenez l'importance du dialogue. C'est très important. Vous êtes sans ignorer que le président Kabila, lorsqu'il est arrivé le 26 janvier 2001, il a trouvé le pays dans un chaos. Et donc, je pense qu'il a une responsabilité devant l'histoire. Aujourd'hui, que l'on parle, les débats sont sur la fin du mandat du président Kabila. Je pense qu'il ne voudrait pas, j'essaie un peu d'imaginer, qu'il ne voudrait pas, et je l'ose croire humblement.
Vous devenez aussi prophète.
Non, j'ose croire humblement que le président Kabila ne voudrait pas laisser le pays dans le chaos. Lorsque vous suivez toutes les revendications, il y a un problème. Il y a un problème avec, par exemple, l'économie nationale, où l'on parle de la croissance artificielle, une croissance virtuelle que nous prêche Matata, du point de vue qui est tout à fait théorique. Il y a un problème parce que le panier de la ménagère, le salaire des fonctionnaires, tout ça, on a un problème sérieux. Je pense que le dialogue, il faut qu'on parle. On parle de la sécurité avec ce qu'il y a à Beni là-bas. Vous avez suivi même dans la province orientale, on a évoqué cette question de la sécurité. Et que dire encore des élections?
D'accord.
Les élections avec les élections locales, c'est une charge, parce qu'on a parlé même du découpage territorial. C'est un véritable problème, une véritable épine qu'il faut régler. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à un processus apaisé.
D'accord. Alors, Joël Kadé, est-ce que l'opportunité d'élargir les consultations aux provinces valait la peine?
Je pense pour ma part qu'il s'agit là d'une diversion, d'une distraction, des mauvais augures, dans la mesure où personne, même tous ceux qui ont rencontré le chef de l'État en personne, personne n'a posé le réel problème. Tout le monde tourne autour du pot. Et tout le monde emprunte des voies, quatre chemins, pour ne pas dire la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est quoi, très cher confrère? Qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est que la problématique est située au niveau du maintien ou non de Joseph Kabila au-delà de 2016. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mon confrère venait là de dire que Joseph a pris le pays
dans un chaos.
Il a réunifié, il a pacifié le pays. Aujourd'hui, il reste quand même quelques poches d'insécurité à Beni.
C'est le mérite du président, oui.
Mais au moins, et puis il avait pris ce pouvoir-là à 29 ans, il a sacrifié sa jeunesse. Nous savons que entre 19 ans et 40 ans, c'est l'âge où chacun jouit de sa jeunesse, mais lui a sacrifié ça au service de la nation congolaise. Et quand on reste 45 ans, où la personne assume maintenant seule ses propres responsabilités, on lui demande de partir. Je crois que c'est là où Nazem Nazembe, qui s'est confié à notre rédaction Impact News, a dit qu'on réfléchisse dans les dialogues, qu'on dise la vérité. Le vif du sujet se le maintien au nom de Joseph Kabila au pouvoir.
Voilà,
et en conséquence, okay. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on réfléchisse à un départ vers la 4e République qui voudrait qu'il y ait une démocratie consensuelle, selon Nazem Nazembe, une démocratie consensuelle qui voudrait que ceux qui ont gagné gèrent ensemble avec ceux qui ont perdu.
Vous vous appuyez beaucoup sur Nazem Nazembe.
Non, ça voudrait dire ceci, que ceux qui ont échoué, parce que vous avez vu, il y a eu Moussungaï qui était de l'opposition, qui a été pris dans ce gouvernement, il y a eu l'ancien ministre de l'économie qui a été pris dans ce gouvernement. Au lieu de chercher à débaucher par la suite les opposants, qu'on se convienne déjà au départ et que cela soit consacré dans la Constitution, que les perdants peuvent co-gérer avec
d'accord.
ceux qui ont
alors,
gagné.
Je vais poser une
je crois
question
que c'est ça le véritable problème.
Je suis
au
d'accord.
lieu de tourner autour du pont
d'accord,
sur l'enrôlement
de
nouveaux majeurs.
Maintenant, il y a une dernière question que je vais poser sur laquelle tout le monde va essayer de répondre.
Nous sommes journalistes.
Joël,
qu'on n'entre pas dans les considérations politiciennes.
D'accord.
Restons journalistes pour dire que les politiciens abordent le véritable problème.
Merci.
C'est celui-là.
Alors,
au lieu
voilà.
de lancer
une
la population dans la discussion avec Kand qui ne peut rien faire, Tamanista qui ne peut rien faire.
Nous n'avons plus beaucoup de minutes.
Le problème, c'est le président de la République qui résolve ce problème.
Nous n'avons plus beaucoup de minutes, Joël Cadet. Une dernière question sur laquelle nous allons pratiquement conclure. La question, c'est de savoir, tout le monde finalement pense au dialogue politique et un consensus. Est-ce que c'est ça la solution pour aller vers les échéances électorales à venir de manière apaisée? Je commence par vous, Clément Mangoubou, et ce sera votre conclusion.
Bon, j'entends dire que les dialogues, c'est une tradition congolaise. Et c'est vrai, parce que les Congolais ont pris l'habitude de dialoguer depuis la nuit des temps. Mais je pense que pour une question aussi importante que les élections, il y a lieu d'aller au dialogue. Pour que les gens échangent, qu'ils se disent la vérité en face, pour qu'ils trouvent la voie de sortie pour des élections apaisées. Et je pense que maintenant, c'est ce à quoi nous devons nous employer, nous tous.
Merci
Mais il
beaucoup.
Ne faut pas qu'il y ait glissement, comme disent certains.
D'accord.
Il faut qu'ils prédisent le glissement, mais il faudra qu'on travaille en toute transparence pour que ce que nous attendons, à savoir des élections apaisées et un Congo pacifique, arrive.
Merci beaucoup, Clément Mangoubou. C'est là votre conclusion. John Omombo, quelle est votre conclusion par rapport à ce dialogue que tout le monde est en train de souhaiter pour aller vers les élections apaisées?
La conclusion, c'est que moi, je voudrais qu'on puisse dépassionner le débat, désentimentaliser, essayer d'éviter une dose de subjectivité trop élevée dans le débat pour dire que la question du dialogue, c'est pour régler la question du président Kabila. Non, je pense que le président Kabila n'a jamais dit qu'il va se représenter au-delà de 2016. Je pense également qu'il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Où est-ce qu'il a dit? Quand et comment?
Merci.
Donc, ce que je veux tout simplement qu'on comprenne, que les thèmes comme la sécurité, l'économie, les thèmes comme les élections, surtout la normalisation du processus électoral, c'est des questions qui touchent à la vie nationale. Ce n'est pas le problème du président Kabila.
Merci.
C'est un père de famille. Demain, il peut vous dire non, moi j'ai démissionné, je pars. Il a besoin de se retrouver avec ses enfants, sa femme et les enfants. Et peut-être à l'abri, plutôt que d'être chaque fois on est président et puis on voit tout le temps à la télévision des gens qui vous insultent.
Merci
je
beaucoup.
Pense que ce n'est pas le problème de l'individu Kabila.
Merci beaucoup.
Mobutu est parti de ce pays. On pensait qu'on allait trouver la solution. La solution, ce n'est pas l'individu. La solution, c'est le système et on doit parler pays. Éviter des sentiments. Éviter la subjectivité.
Merci.
Dépassionner le débat. Merci.
Merci beaucoup, John Omombo. C'était vraiment chaud, la tribune de ce soir. Alors, Joël Cadet, une en guise de conclusion, deux mots.
Deux mots, c'est justement pour dire qu'il ne s'agit pas d'une subjectivité. C'est un problème très cher, confrère, d'aborder le fond du problème sur le maintien au nom de Joseph Kabila. Parce qu'il a été pris en otage par une certaine classe d'individus qui ne veulent pas quitter la jouissance du pouvoir, quitter
Merci.
La jouissance. Et ces gens-là l'ont pris en otage spirituellement, comme matériellement, politiquement, de telle sorte à ne pas laisser que leur tiroir ne soit dévalisé. Parce que lorsqu'on va trouver dans ces tiroirs qu'il y a des cadavres qui puent, et en conséquence, ils font tout pour rester au pouvoir.
Merci beaucoup, Joël Kadetana. C'est sur cette note que la tribune de la presse de ce soir prend fin. Je dis merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son, équipe rédactionnelle et coordination Guimaté, et Martin Sebouchang, la supervisée. Berry Franklin Ouchaka vous l'a présenté. Vous dit merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur votre site www.radiocapi.net.